Bien, ben, bonsoir. Maintenant que nous sommes au complet, après avoir attendu impatiemment Monsieur Marc Castel, donc nous allons pouvoir entamer cette table ronde autour du roman d'aventure Plaisir de lire. Alors, j'allais dire que déjà, en général, c'est un plaisir de lire. Et puis, quand on a les auteurs que nous avons ici, c'est un plaisir encore plus grand. Alors, je ne sais pas s'il est vraiment besoin de les présenter, mais donc, à côté de moi, John Lang, donc auteur d'une part du donjon de la série du donjon de Nahul
Je nie tout en bloc.
Buck. Bah, ça fait rien, nos avocats s'en occuperont. Donc, cinq romans en plus des albums de bande dessinée. Et puis, ce que l'on sait parfois un petit peu moins, c'est que vous avez écrit à côté un autre roman qui s'appelle Le Bouclier Obscur.
Oui, ça fait peur.
Qui est très bien aussi. À côté de lui, Gabriel Katz, donc que l'on avait découvert d'abord avec sa trilogie du Puits des Mémoires, dont je rappelle que le premier a été récompensé par le prix Imaginal 2013.
Oui, c'était il y a longtemps, en 2013, donc j'ai problème de mémoire parce que c'est une histoire d'amnésie, mais oui, c'est un très très bon souvenir.
Et ensuite, il y a eu La Maîtresse de guerre qui se déroulait dans le même monde, mais
Absolument.
ailleurs. Et puis, plus récemment, Eternia, donc un diptyque qui lui aussi se déroule toujours dans ce même univers, mais encore dans un continent différent.
Tout à fait.
Voilà. Et puis, vous avez quand même décidé de vous diversifier quelque part et vous avez écrit tout à fait récemment, alors ce qui n'est pas de l'aventure stricto sensu, mais un roman qui est plutôt policier, qui s'appelle N'oublie pas mon petit soulier.
C'est ça, qui est un polar, un thriller, qui est quand même un petit peu de l'aventure parce qu'il part un peu dans tous les sens.
Bon, on va en parler après. À côté de Gabriel Katz, Patrick Maxpert, donc
Bonsoir, bonsoir.
voilà, qu'on connaissait d'abord pour la série des Hauts Conteurs. Qu'il a écrit avec Olivier Perru. Ensuite, il a écrit un certain nombre de romans uniques sur la comtesse Bathory,
Voilà,
etc.
là c'était résolument adulte pour le
Voilà,
coup.
résolument adulte.
Vraiment,
Et,
vraiment.
mais il y avait de l'aventure dedans.
Ah oui,
Et
beaucoup.
puis, surtout, et puis plus récemment, donc, une trilogie qui s'appelle Les Héritiers de l'Aube,
C'est
où alors
ça.
là, il y a beaucoup d'aventures à travers le temps et l'espace.
C'est ça, c'est une série basée sur le voyage temporel
Voilà.
et qui bouge beaucoup, beaucoup et
Et
beaucoup
donc,
d'aventures.
et votre tout dernier roman, qui est Victor London, L'Ordre des Coruscants, un tome 1 dont on espère ensuite qu'il y aura un tome 2, mais on va en parler un
C'est
peu
très
plus
gentil.
tard. Et je termine avec Jean-Luc Marc Castel, dont le nombre d'ouvrages, et encore on n'a fait qu'une sélection sur la table, est assez important, mais on a pris ceux qui étaient vraiment le plus d'aventures et les plus récents. Alors, je cite un petit peu dans le désordre, hein,
On va faire un
mais
bouquet.
voilà, il y a la trilogie du Simulacre, il y a la trilogie des Enfants d'Erebus, il y a le diptyque de Prairie, et puis le tout dernier, qui est le premier tome d'une nouvelle série qui s'intitule Télucidar.
Référence à Edgar Allan Poe, bien sûr.
Voilà. Donc, alors, ma première question, c'est, au vu de ce que vous avez, est-ce que d'abord vous vous définiriez comme des auteurs de romans d'aventure?
Ouais, ben moi je le fais même pas exprès, en plus parce que je raconte du jeu de rôle et ben, par définition, on n'a même pas besoin de faire exprès en jeu de rôle de partir à l'aventure puisque ça nous tombe sur le coin de la gueule à peu près toutes les 5 minutes. Voilà, donc effectivement, moi je me laisse porter un peu par le système, on va dire. D'autant plus qu'en plus je tire mes événements de bouquins au dé aussi, de temps en temps. Ce qui induit une espèce de truc un peu bizarroïde qui se passe de temps en temps, parce que je ne fais pas ça à toutes les lignes, parce que sinon on ne s'en sortirait pas, il me faudrait de l'aspirine. Mais ouais, j'aime bien de temps en temps, tiens, et je reçois des résultats, et là je me fais, ah oui, alors là c'est l'aventure, il va falloir que j'écrive ça. Voilà, et puis du coup je continue comme ça jusqu'à la fin.
Il y avait un précédent, tu sais, c'était Alain Paris qui avait écrit une série qui s'appelait Pangée. Et en fait, la fin, ça finissait par un cataclysme. De toute façon, ils allaient tous mourir, mais il y avait deux armées qui s'affrontaient avant. Ils ne savaient pas laquelle allait gagner. Il avait fait jouer la bataille par ses amis qui étaient figurinistes, avec je ne sais pas combien de figurines sur une table, pour savoir lequel des deux camps allait gagner la guerre avant qu'ils se fassent tous.
Ouais, c'est l'idée, c'est sympa.
C'est marrant.
Bon, alors, le premier tome du Puits des Mémoires, en fait, est tiré d'un jeu de rôle, je le dis parce qu'on est entre nous, personne ne doit le savoir, mais c'est un peu vrai. Donc, il y a un petit peu de recoupement quand même, c'est effectivement de l'aventure. Ça reste du roman, c'est plus travaillé qu'une campagne de jeu de rôle, mais alors, je ne tire pas au dé, je ne tire pas du tout mes événements au dé, non. Mais en revanche, pour être très très franc, je ne sais pas très bien ce qui se passe en général dans les tomes suivants. C'est-à-dire que j'ai mon début, j'ai ma fin, c'est le principe du squelette de poisson, c'est-à-dire il y a la tête du poisson, la queue du poisson, les arêtes au milieu. Et sinon, je remplis au fur et à mesure. Donc l'aventure, elle est aussi pour l'auteur. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a un personnage qui me plaît, je commence à le développer. Tout d'un coup, il y a une situation qui me plaît, elle part tout à fait dans une direction que je n'avais pas prévue. Donc oui, il y a une double aventure, autant pour le lecteur qui rentre dedans que pour l'auteur.
Et pour répondre à la question, bah oui, bien sûr, on est. Je pense que c'est pareil pour mes petits camarades. Je me considère avant tout effectivement comme un auteur écrivant sur l'aventure. C'est ce qui me constitue depuis toujours. Quand j'étais gamin, j'en lisais. Et quand je suis passé de l'autre côté, tout naturellement, j'ai commencé à en écrire. C'est ça qui m'éclate. Pour reprendre une phrase, pour m'approprier une phrase frappée au sceau du bon sens de Gab, on est fait pour raconter des histoires, effectivement. Que dans les romans, hein, dans la vie de tous les jours, on n'est pas comme ça non plus. Non. Alors après, on peut se demander, effectivement, si nous n'étions pas écrivains, est-ce qu'on serait complètement mytho ? Peut-être. Je ne sais pas.
On dirigerait peut-être une secte, on va savoir. Bah, moi, pareil. Moi, j'ai commencé quand j'étais gosse, j'ai commencé à lire beaucoup, énormément. Et ça m'embêtait beaucoup parce que j'étais jamais dans les bouquins que je lisais. J'étais jamais le héros. Et comme en fait, je connaissais aucun auteur qui voulait se pencher sur mon cas, je me suis dit, je vais le faire moi-même. Donc, j'ai commencé à prendre un stylo, à prendre des feuilles, à écrire des histoires dans lesquelles je me mettais en scène. J'ai écrit mes aventures à moi. Les aventures que je voulais, avec les personnages que je voulais. Alors à l'époque, je ne me gênais pas pour piller en plus les livres que j'avais lus. J'utilisais des héros et tout ça. Il m'arrivait des aventures avec eux. Et puis j'ai continué comme ça. Donc j'ai continué de raconter des aventures. Puis moi, c'est pareil. Ça me fait rêver. Quelque part, on se met dans la peau de nos personnages. Et c'est nous qui vivons les aventures. À travers eux, finalement. Les aventures qu'on aura envie de vivre.
Est-ce un petit mot, mais... où tu as commencé, parce qu'on doit avoir commencé à la même époque. Je pense qu'on avait un petit peu de mal à s'intégrer en tant que lecteur d'aventure. Hein. Ouais. Je sais pas si c'est le cas pour vous, mais moi...
C'est un peu le bizarre de la classe.
Sur les six profs de français dont je me souviens, il n'y en a qu'un seul qui m'a dit que c'était bien de lire de l'aventure. Les autres, ils m'ont dissuadé.
Moi, il y en avait deux et j'étais tombé dans Lovecraft en plus avec des trucs à tentacules. Alors, je faisais du Lovecraft et il y avait des profs, ils faisaient de la rétention, tu sais. Ça ne leur plaisait pas du tout.
Mais j'ai essayé de faire comme toi, de raconter mes aventures en fait quand j'étais gamin et c'était excessivement chiant. Donc, j'ai fini par raconter les aventures de quelqu'un d'autre. En fait.
Ah non, pas moi. Moi, j'aimais bien, tu sais, quand il y avait quelqu'un qui m'emmerdait dans la cour de récréation. Le soir, quand j'écrivais mon bouquin, tu vois, mon histoire, qui c'est qui tombait dans un puits dégueulasse ou qui se faisait bouffer de manière immonde par un monstre abominable, c'était celui qui m'avait enquiquiné l'après-midi. Puis alors, je prenais tout mon temps, hein, ça pouvait se développer sur des pages, ce genre de rigolade. Hein.
Comme ça, le lendemain, tu pouvais lui dire « Ah, t'as retrouvé tes bras alors ?»
Voilà. Le lendemain, tu vois, je le croisais dans la cour, moi j'avais la banane jusque-là, lui, il ne comprenait pas pourquoi, ça avait fait de mal à personne. Finalement, tout le monde était content.
Moi, je l'ai jeté moi-même dans le puits, en fait, je me suis entraîné.
Et vous, Patrick Maxper, vous identifiez aussi à vos personnages ?
Oui, mais moi, je préfère m'identifier à mes méchants. C'est plus jouissif. C'est plus rigolo. Je
m'identifie aussi à nos méchants.
Alors, vous êtes identifié à la comtesse Bathory ?
Non, parce que là, c'était un petit peu hardcore quand même. Hein. Surtout, enfin, au début, pourquoi pas ? Puis au fur et à mesure de l'écriture, je me suis dit non. Définitivement, je ne peux pas. C'est quand même, c'était un peu violent, quoi. Même pour elle, hein.
Alors, il y a quelque chose aussi que j'aimerais savoir, c'est que John Lang, Gabriel Katz, vous n'avez écrit jusqu'à maintenant, vraiment, vous êtes plutôt soit dans un univers de fantasy pure, Gabriel, univers de fantasy avec Nahuel Beuk, urban fantasy, on peut dire, quelque part dans le bouclier obscur, alors que vous, Patrick Maxper et Jean-Luc Marcastel, vous êtes plus diversifié quelque part. Donc, est-ce que c'est par goût personnel que vous écrivez plutôt de la fantasy ? Comment choisissez-vous vos décors, dirais-je ?
Ben, j'ai le micro, je le garde, hein. Je continue. Hein. Moi, personnellement, c'est effectivement par goût. personnel. J'aime beaucoup écrire sur les périodes qui m'intéressent. Victor London, donc c'est Angleterre victorienne. Celles et ceux qui me suivent depuis un petit moment savent que j'ai beaucoup de goût également pour l'ère médiévale. Et puis voilà, donc c'est, en général, c'est effectivement, je ne me verrais pas écrire sur une période qui m'ennuie profondément, quoi.
En ce qui me concerne, en fait, c'est une question de temps. C'est-à-dire que j'ai envie de tout. Objectivement, j'ai vraiment envie de tout. J'ai envie de faire du contemporain, j'ai envie de faire du post-apo, j'ai envie de faire toutes sortes de choses. Pour l'instant, j'ai fait de la fantasy. Je suis tombé très amoureux de la fantasy, alors je n'en lisais pas. J'aime énormément le monde que je développe, donc je continue. Je suis parti en thriller parce que ça m'a amusé. L'année prochaine, j'ai un thriller fantastique qui sort, qui est un truc complètement décalé, qui est autre chose. J'ai dans mes fonds un médiéval noir qui finira par sortir aussi. Donc c'est vraiment une question de temps. Je pense que si j'avais le temps, je ferais un bouquin par jour. C'est un petit peu compliqué, en fait.
Ben, moi, c'est tout comme lui.
C'est un peu facile, monsieur.
Non, mais c'est vrai, parce que c'est justement, avant qu'il parle, j'étais en train de me dire, ouais, mais moi, en fait, mon problème, c'est que j'aime beaucoup de choses. D'ailleurs, tu le sais, parce que tu as un quart de ma collection de bouquins récupéré chez moi.
Ceci sera effacé de l'enregistrement.
Non, mais on a fait des échanges de bons procédés. Non, effectivement, j'ai grandi en lisant du Fleuve Noir Anticipation, qui était une collection quand même qui avait énormément de courants littéraires, puisque il y avait dedans de la pure aventure spatiale, il y avait du post-apo dark, il y avait de l'Uchronie, il y avait du space opéra grandiloquent, de la fantasy, du polar même, il y avait des espèces de polar galactique, enfin vraiment, moi je trouve que ce qu'il y avait dans cette collection, c'était exactement... À chaque fois, il y avait des livres que j'aimais pas du tout, mais à chaque fois que je lisais un livre que j'aimais bien, je me disais, ça c'est un univers ou enfin, c'est une période ou un courant littéraire qui me plaît. Et effectivement, si j'avais le temps, j'écrirais bien de la SF. Le space opéra, peut-être pas trop, parce que je suis tellement pessimiste que, à mon avis, ça n'arrivera jamais. J'aurais un petit peu de mal à l'expliquer niveau background. Mais tout le reste, ouais. Bon, le space opéra, quand on y est, c'est bien, mais il faut déjà y arriver, quoi.
Voilà. Ça veut dire que s'il y a un éditeur en fait qui veut nous éditer tous les deux, il va falloir qu'il fasse un bouquin par jour pendant très très longtemps. Ça va être long et cher.
Le problème du space opéra, alors ça dépend. Moi, je sais que moi j'adore le space opéra, mais en fait de l'époque d'Edmond Hamilton, etc., les Loups des Étoiles, enfin ce genre de choses, moi j'adorais ça. C'est ce qui a fait la Guerre des Étoiles après, ce qui a donné la Guerre des Étoiles. Le problème, c'est qu'actuellement, si on écrit du space opéra, c'est qu'en tant qu'auteur, on peut pas vivre avec, quoi. Ça ne marche en ce moment, ça marche pas. Ça marche en film, ça donne à voir, mais par contre en livre, ça marche plus.
Ah oui, mais je savais même pas moi.
C'est en ce moment le space opéra. Enfin, à part quelques titres vraiment particuliers, c'est vrai que voilà.
Oui, parce que c'est quand même, ils font quand même beaucoup de cinéma très cher avec. Qu'on pourrait se dire que ça intéresse les gens.
C'est-à-dire que je pense aussi que avant, à l'époque, les gens, s'ils voulaient voir des milliers de vaisseaux se taper sur la figure, ils étaient obligés de lire un livre. Il y a maintenant, avec les effets spéciaux qu'il y a, on l'a vu avec la stratégie Under, des choses comme ça, ils le voient au cinéma. Et donc, il faut qu'on leur donne quelque chose de plus dans le livre. Il n'y a pas plus simplement maintenant cette évasion-là, ils l'ont sur le grand écran.
Vous avez commencé, là, Jean-Luc Marcastel, à approcher les marches très proches du space opéra, parce qu'avec le simulacre,
oui.
D'Artagnan part dans l'espace.
C'est ça. Là, c'est...
Et ça se termine en apothéose des destructions lunaires. Enfin, spoiler
pour ceux qui n'ont pas lu. Disons que là, voilà.
J'aime bien
être à la frontière des genres ou transgresser un peu les frontières des genres. Alors le simulacre totalement, un jour, je ne sais pas comment m'est venue cette idée exactement, moi j'adorais la Guerre des Étoiles, j'adorais Alexandre Dumas, je me dis, si on faisait une histoire où Alexandre Dumas rejoint George Lucas dans une histoire, voilà. Et donc ça a donné le simulacre tout à coup, si sous le règne de Louis XIII, des extraterrestres avaient attaqué la Terre, qu'est-ce qui serait passé qu'on avait été sauvé in extremis par une autre race qui va nous vendre une technologie vachement en avance sur ce temps-là, donc... Voilà, des diligences volantes, des rapiers énergétiques, des pistolets à lumière.
Moi, je croyais que D'Artagnan, il était arrivé dans l'espace avec une très grosse catapulte, mais non, en fait.
Non. Alors, il arrive avec des vaisseaux et tout ça. Enfin bon, des vaisseaux volants avec des voiles de lumière, des choses comme ça, tu vois. Il se passe des choses extraordinaires. En plus, c'est même pas le vrai D'Artagnan, c'est son clone, c'est le simulacre de D'Artagnan, en fait.
Moi, j'ai une annonce à faire. En fait, je vais reprendre Proust avec la Madeleine de l'espace, mais c'est un spoiler.
Tout ça sans prendre de drogue.
Proust, c'est Kafka, c'est ça.
vous aussi, Patrick Maxpert, vous touchez.
J'ai arrêté la drogue.
Bon, nous vous laissons l'entière responsabilité de cette déclaration. Mais vous aussi, vous aimez bien les aspects un peu science-fictifs, parce que dans les Héritiers de l'Aube, c'est du voyage temporel dur et dur.
Hein. Ouais, totalement. Alors après, pour le coup, on est dans un créneau complètement fantasy, puisqu'il voyage dans le temps uniquement grâce à des processus magiques, des sortilages, des portails druidiques. Donc il n'y a pas de technologie qui rentre en ligne de compte. Mais néanmoins, oui, le principe du voyage temporel, on peut dire qu'il est quand même très très ancré dans la SF.
Avec un des personnages qui vient même du futur par rapport à lui.
Oui, exact. Du coup, oui, et en fait, c'est un coup classique du paradoxe temporel. C'est l'un des quatre héros qui débarque de l'avenir pour empêcher rien du tout finalement, mais bon. Du moins, il aurait bien. Oui, c'est pas Terminator non plus. Hein. C'est sûr que le mec, il aurait bien aimé, mais il n'arrive pas à empêcher la catastrophe. Mais en tout cas, bon, voilà, le quatrième, le héros qui est concerné, c'est déjà ce qui deviendra dans un lointain avenir. Et il sait que ça ne sera pas fun. Quoi. Ça ne va pas être réjouissant.
Mais moi, finalement, si j'y réfléchis, je vois même le Galou, c'est pas franchement de l'héroïque fantasy, parce que c'est une uchronie médiévale. Puisque je pars du principe qu'il y a quelque chose qui est tombé, et ce qui change les bêtes ou les hommes de manière horrible, ça peut être des radiations, ça peut être compris comme des radiations. Et pas des, enfin, voilà. Après ça, je laisse, par contre, comme c'est raconté par un conteur médiéval, je me disais que si eux avaient une catastrophe comme ça, ne la verraient pas comme quelque chose de scientifique, ce serait quelque chose qui serait lié à la religion, donc au diable.
D'ailleurs, ça, c'était votre première série, Louis le Galou, et oui. On voyait tout de suite l'inspiration lovecraftienne. Parce que la météorite qui tombe du ciel et qui modifie les gens, on voit que vous aviez lu trop Lovecraft avant.
Ah ben oui, je suis tombé dans Lovecraft quand j'avais 14 ans. Même avant, j'avais 12 ou 13 ans quand mon père m'a mis mon premier Lovecraft dans les mains. Puis alors là, je suis tombé dedans gravement, j'écrivais du Lovecraft.
Est-ce qu'il a fait ça en se transformant en poisson ?
Non, quand même pas. Mais il n'avait pas prévu les conséquences, et qu'après, je lui pirais toute sa bibliothèque. Quoique, en fait, le premier livre qu'il m'a mis dans les mains, c'était pour Patrie l'espace de Francis Carsac. C'était de la SF. Donc j'ai gardé un attachement particulier pour ce livre-là.
Alors on a commencé à parler des personnages, avec d'abord le personnage impuissant, il connaît le futur et il sait qu'il ne pourra pas le changer dans les conteurs.
Dans les Héritiers de l'Aube.
Voilà, alors moi ce que je voudrais savoir aussi, parce que vous avez écrit certains romans, ça s'adresse plutôt à des adolescents, mm-hmm. des adultes, la preuve, les lire avec plaisir.
Ado et young adult.
Il y en a d'autres qui sont vraiment avec des héros adultes, destiné à un lectorat adulte. Alors, quand l'inspiration vous vient, comment décidez-vous ? Tiens, là, je vais faire plutôt de l'aventure jeunesse ou plutôt de l'aventure adulte ? Comment ça fonctionne ?
Très en amont. Au moment où je conçois le projet, mais disons, ça s'impose à peu près comme une évidence. Quant à ce Bathory, quand j'ai eu envie de travailler dessus, il était évident que ça ne pourrait pas être destiné à un public jeunesse. Et donc, je me suis lâché complètement. J'en ai profité pour faire le roman le plus hardcore que j'écrirai sans doute jamais. Quoi. Même moi, quand j'y repense, parfois, je me dis, mais c'est moi qui ai écrit ça, Breu.
Mais Disney aurait pu en faire du tout public. Hein.
Oui, c'est vrai.
C'est une question d'honnêteté, quoi.
Totalement. D'ailleurs, peut-être un de ces quatre, qu'ils y viendront. Hein. Et voilà, j'ai perdu le fil, merci John, merci, c'est sympa.
Non mais c'est mon boulot.
C'est sympa.
Entre choisir entre des personnages adultes ou des personnages adolescents, oui. Décider vers quel public on va s'orienter en priorité.
Voilà, ouais, donc du coup ça se fait, c'est plutôt le thème qui impose le choix finalement. J'ai quand même une petite préférence actuellement pour le tout public. Donc, je vais pas. Un roman comme Comtesse Bathory, j'en referai pas, je pense. Mon prochain roman qui sortira chez Pygmalion, soit en fin d'année, soit début 2017, ça sera adulte, mais ça sera pas hardcore. Hein, quoi. C'est. En deux mots, le pitch, c'est Mission Impossible, la série, chez Clovis, en fait. Donc, voilà, ça raconte. C'est pas un livre comique, hein, les filles. Hein.
Est-ce qu'il y a des ninjas? Parce que là...
Votre mission, si vous l'acceptez, de protéger le vase de soie.
Voilà. Qui n'a pas existé, hein, en plus. Donc, mission amplement difficile.
Et vous, Gabriel Katz, vous êtes... les romans de fantasy que vous avez écrits sont plutôt orientés adultes.
Ouais, ils sont plutôt orientés adultes pour la bonne raison que j'aime pas énormément le héros adolescent qui a un destin. Il me fatigue d'avance, en fait, ce jeune adolescent qui a un destin, qui est là, il va être appelé à des grandes destinées. J'aime bien l'adulte parce qu'il a un sac sur le dos. C'est souvent un peu lourd, en fait. Donc, dans Eternia, par exemple, qui est mon dernier diptyque de fantasy, le bonhomme, le personnage principal, c'est un gladiateur qui a une quarantaine d'années, qui est en bout de carrière, et qui se retrouve avec ses deux fils ados. Il ne sait pas quoi en faire. Il est pas doué, il est emmerdé, sa femme l'a quitté... Il essaye de les éduquer, ça ne marche pas, il ne sait pas où aller. Il est encombré, en fait, par ce qu'il est. Alors qu'un ado, c'est tout à fait... comment dire? C'est en devenir. Ça fait à peu près ce que ça veut au fur et à mesure de l'histoire. J'aime bien le personnage avec un passif, en fait.
Oui, parce que Let Marek, effectivement, le passif...
Ah, Let Marek, il a un passif qui s'alourdit, en plus, au fur et à mesure de la série.
Quelques centaines de personnes tuées. Hein,
quelque chose comme ça, oui.
Ensuite, ça augmente.
Quelque chose comme ça. Et le truc, c'est que ce n'est pas quelqu'un de sanguinaire. C'est quelqu'un qui a beaucoup de morts derrière lui, parce que c'est une question de profession, mais c'est quelqu'un d'assez droit, finalement, qui fait son boulot, qui est plutôt calme, et qui se retrouve aspiré dans une espèce de maelstrom de violence qui n'est pas du tout son truc, en fait, finalement.
Oui, parce qu'au début... tout ce à quoi il aspirait, justement, c'était de partir bien tranquillement avec les gains qu'il avait fait dans les arènes.
C'est ça.
Pour donner la meilleure éducation possible à son fils.
Voilà, à ses fils, tranquillement, dans une belle ville, avec une belle maison, etc. Ça ne se passe pas du tout comme ça. Et ce type, au cours de ce roman, va tomber amoureux. Et un jeune qui tombe amoureux, qui est beau gosse et qui a la vie devant lui, en général, ça se passe très bien. Là, c'est un gros bonhomme qui n'est pas terrible, qui n'est pas très séduisant, il n'a pas tant de succès que ça. C'est plus compliqué pour lui et je le trouve plus attachant, en fait.
John Lang.
Ouais, moi, en fait, j'ai jamais du tout réfléchi au concept de cible, puisque j'ai jamais écrit jeunesse. Alors, je me suis retrouvé ici dans une table ronde sur la jeunesse. Je ne savais pas pourquoi. Avant, on en a discuté dans la table ronde. Hein. Ah ouais, toi aussi. Bah, tu étais peut-être là, d'ailleurs. On est arrivé et puis on m'a dit bah alors vous faites du jeunesse? Non. Bon, alors c'est vrai que j'ai des aventuriers qui ont l'air j'ai des petits dessins quoi, mais je fais pas du tout du jeunesse et de toute façon je ne pense pas comprendre assez les jeunes pour leur écrire des trucs. Et moi le concept de l'ado à destin m'a toujours énervé, même quand j'étais ado. Donc moi j'aime bien écrire ce qui me passe par la tête. D'ailleurs quand on a commencé à me parler de cible, ça faisait déjà longtemps que j'écrivais. J'étais invité chez J'ai lu, qui voulait que je leur explique mes livres. Et donc, ils m'ont dit, mais c'est quoi votre cible? Alors là, je suis resté comme ça. Je dis, je ne sais pas, j'en ai une, mais c'est plutôt pour les fléchettes. Mais sinon, non. Mais vous devez bien avoir une cible. Tout le monde a une cible. Non, je n'ai pas de cible. Alors, ce qui est sympa, d'ailleurs, parce que quand je suis en dédicace, je vois des petits gamins... Je vois les jeunes adultes, je vois les grands adultes, je vois les grands-pères. Voilà, donc je suis content de ne pas avoir de cible. Et moi, j'écris surtout pour moi.
Il
ne
faut pas
me
montrer du doigt, M. Marc Castel. Je
regarderai bien, M. Rivera.
À propos de grand-père, le plus beau que j'ai eu, c'est quelqu'un qui est venu en dédicace et qui m'a dit « Oui, mon père vous lit, vous adore. » Et il a 98 ans. Je lui dis « Putain, c'est mon lecteur le plus vieux. » Alors que ma grand-mère en a 97, quand même, c'est pas mal. Et donc, on m'a montré la photo sur iPhone et tout. On le voyait en train de lire Le Puits des Mémoires. Ça m'a frappé. Alors, parce qu'il y a effectivement des gamins, il y a des gens de tous âges. Donc, c'est sûr que jeunesse, adulte, finalement...
Moi, c'est vrai que pareil, je ne me suis jamais posé la question. En fait, quand j'écris mes livres, je ne me pose pas la question. Après, les éditeurs le mettent... Oui, bon, c'est après, quand je relis, je me dis, oui, bon, là, par exemple, celui-là, non, clairement, je ne pourrais pas le faire lire à des gamins de 12 ans. Voilà, si tu vois, une fois que tu as fini d'écrire ton livre, tu dis, non, bon, là, c'est clair, ça ne sera pas... Mais je me pose pas la question quand je commence, quand j'écris mon histoire. C'est tout séparé. Et le galou, c'est la même chose. Je l'écris sans penser à une cible particulière. Et je suis content quand je vois qu'il y a des gens. Il y a des petits gamins de 8 ans. Il y en a 8 ans qui est venu une fois l'acheter. Le quatrième, il avait déjà eu tous les autres. Et j'ai une grand-mère de 96 ans qui est venue une fois en dédicace. Elle me dit, oh, moi, je les ai tous lus. Je les offre à mes enfants et mes petits-enfants.
Bah, je pense que si tu commences à écrire un livre en pensant d'abord à ta cible, il y a une part d'honnêteté de l'auteur qui s'envole déjà. Parce que tu n'es pas censé commencer à écrire en réfléchissant à des chiffres de vente.
En plus, ça veut dire quoi? Ouais, ça veut dire que tu t'interdis d'une certaine manière d'écrire. Tu commences à dire, ah ben, je vais pas employer des adjectifs compliqués parce qu'ils vont pas comprendre. Et puis bon, moi, l'idée de dire, on va écrire pour des jeunes, par exemple, l'idée qui est un peu implantée actuellement et qui m'agace, c'est de se dire, voilà, si on écrit pour des jeunes, il faut que ce soit des héros jeunes. Ouais. Je sais pas moi. À l'époque, Jules Verne, c'était de la littérature jeunesse. C'est pas pour autant que les héros, ils avaient 15 ans. Alors, est-ce que les jeunes étaient capables à l'époque de lire des livres où les héros étaient des adultes? Comme moi, quand j'ai commencé à lire des livres, je parlais de Francis Carsac, le héros, il est adulte. Hein, c'est un garde d'un empire, enfin, etc. Pourquoi est-ce que pour les enfants, on devrait forcément avoir des héros qui sont aussi des enfants?
Ouais, mais ça doit être complètement grotesque parce que y a plein de trucs plus comme que modèle, les jeunes lisent et qui n'ont pas de jeunes du tout. Hein. Voilà, moi, j'ai aucun jeune chez moi. Si, il y en a un, mais il se fait transformer en chèvre. Bon. On peut pas dire que son destin soit extraordinaire.
Ça arrangerait beaucoup de parents, ça.
En plus, il dure à peu près 30 secondes dans l'aventure. Mais je veux dire, j'ai plein de gamins qui commencent à peine à lire des romans, qui lisent des romans. Et il y a pas de jeunes, ils en ont rien à secouer.
Et puis ils préfèrent le nain, en plus.
Ouais. Après, bon, il y a des nains jeunes. C'est des personnages de bas niveau. Alors, est-ce qu'on peut comparer ça avec le fait d'être jeune? Après, c'est une question rôliste, hein, mais. Je pense qu'ils en ont rien à secouer qu'il y ait des jeunes. C'est un truc qui est tombé encore du marketing.
Mais c'est comme l'idée merveilleuse
mondiale qui nous dit bon, vous êtes jeunes, alors vous lisez des jeunes. Alors qu'est-ce qu'ils lisent les gens à la maison de retraite? Voilà. Ils lisent des trucs avec des vieux? Non, mais parce que je m'inquiète.
C'est comme l'idée profondément implantée que de nos jours, par exemple, donc 70% des lecteurs sont des lectrices. Partant de ce constat, les héros, ça devrait être des héroïnes. Et on se dit, moi j'ai quand même une éditrice qui m'a dit, mais enfin quand même, on est capable, nous, en tant que femmes et que filles, de lire même des livres où c'est quand même des héros. Enfin, oui, ça fait quand même des générations qu'on lit des livres où il n'y avait que des hommes quasiment héros dans les romans d'aventure. On est encore capable de lire des livres où il y a des héros aussi. Je veux dire, ça, c'est l'idée des éditeurs. C'est moi, s'il m'est arrivé avec un éditeur dont je ne citerai pas le nom, où j'ai commencé, je lui ai proposé une série, on a dit, oui, c'est bien, mais le héros, ça serait mieux si on ne pouvait pas le faire si c'était une fille.
Ça, alors moi je sais pourquoi, c'est parce que après ils veulent faire un jeu vidéo et dans les jeux vidéo les gens incarnent des femmes comme ça, comme ils jouent derrière, ils peuvent regarder.
World of Warcraft, c'est plus joli de voir.
N'empêche que cette conférence va nous enrichir tous parce que John vient d'avoir une idée fantastique, il y a un créneau qui n'a pas été utilisé, c'est les maisons de retraite. C'est-à-dire qu'on va faire les héros en déambulateur et on va faire une fortune parce que c'est un créneau complètement vierge.
Bon alors voilà. Là je vais te dévoiler mon plan de carrière pour l'avenir. Moi je voulais faire une maison de retraite pour geeks. Avec des chambres thématiques.
Ah, on y a déjà pensé. Il y a 10 ans, nous, on a commencé.
Des trucs de vieux rôlistes. Tu m'as piqué mon dé.
J'ai même le nom, la maison d'édition. On l'appellera Géronto ou Géronto quelque chose. Ça marchera à fond.
Avec des mais... gros caractères pour que tu puisses lire, tu sais. Gros
caractères. Mais ça m'étonne un peu l'anecdote que tu nous livres là, parce que tout le monde sait que les nanas, qui a effectivement une majorité de lectrices, mais qu'elles n'ont aucun mal à s'identifier à un héros, quoi. Donc, puis bon, voilà, c'est sûr que malgré tout, il y a quand même beaucoup de héros parmi dans la production actuelle et même passée, beaucoup de héros, plus que d'héroïnes, quoi. Je pense.
C'est en train de changer. Regarde les films de dystopie là qui sont sortis ces derniers temps. Si tu regardes, c'est des héroïnes.
C'est des nanas toujours.
Regarde Hunger Games, regarde Divergente, le dernier qu'ils ont sorti, là, je sais pas comment, la cinquième vague ou je sais pas quoi. À chaque fois, c'est des héroïnes. Dans la dystopie, d'ailleurs, ça a l'air c'est assez curieux.
C'est pas nécessaire, en tout cas, puisque ça pose aucun problème aux filles, de toute manière.
Pour
quoi.
Jean-Luc Marcastel, dans la trilogie des Rébus, c'est quand même une héroïne. C'est une héroïne. J'ai deux livres.
C'est un exercice assez marrant en tant qu'auteur que de se mettre dans la peau d'une héroïne. Je trouve que c'est assez justement amusant. C'est un de nos privilèges en tant qu'auteur. On dit, tiens, ben, on va faire, comme dans Un monde pour Clara, d'ailleurs, se mettre dans la tête... ou essayer de se mettre dans la tête d'une héroïne et de voir comment elle pourrait réfléchir.
J'ai fait ça avec La maîtresse de gare et en fait, je me suis fait avoir mon propre jeu. Parce que j'avais créé le monde avant. Le monde, il est aussi fermé, macho et stupide que le nôtre. Et donc, dans la peau d'une héroïne, je me suis heurté à des obstacles que je n'avais même pas vus au début en me disant, mais lui, il ne va pas la prendre au sérieux. Lui, il va essayer de la baiser. Lui, il va essayer... C'est un truc épouvantable. Et je me suis retrouvé finalement dans la peau d'une femme en me disant, ça doit être terrible.
Voilà. Il y a quelque chose d'assez intéressant quand on a une héroïne et peut-être
aussi. T'aurais pu dire, il va essayer de l'attraper, quand même. Reste en classe.
Je sais que les Japonais, tu sais, dans les mangas, dans les dessins animés, ils disaient qu'ils prenaient des personnages d'héroïne parce que, contrairement à un garçon qui doit être monolithique, ne doit jamais douter, ne doit jamais pleurer, etc., eux, les héroïnes pouvaient craquer. On leur pardonnait, dans la culture japonaise, de pouvoir craquer, de pouvoir avoir des faiblesses qu'on n'aurait pas pardonné à un personnage masculin.
Nous en apprenons beaucoup, hein, vraiment.
On dérape un peu là.
Non. Bon, alors, abandonnons pour quelques secondes l'idée géniale de la maison d'édition Gérontophile.
Non, moi, je suis en train de chercher le nom, là, attends. Gérontophilis, on l'appelle Gérontophilis. Non, mais il faut qu'il y ait un rapport à la science-fiction dans le nom. C'est pas facile de tout caser dans un mot qui soit pas trop long. Je vais réfléchir, je vous dirai dimanche.
Les déambulateurs électriques.
Il faut le nom du genre, en fait. C'est séduisant, mais un peu. Il faut le nom du genre. Là, on est en train de monter une maison d'édition pour vieux. Personne ne le sait encore. Hein.
Ouais, vous gardez le silence.
S'il y a des vieux parmi vous, d'ailleurs, on va faire de très bons livres. Ils sont jeunes, c'est dommage.
Non, je crois que là, il n'y a pas le. C'est pas, on s'adresse pas à la cible, pour reprendre le terme de John Lang.
Non, mais ils vont vieillir, on sera mort, mais bon.
On finit tous par y arriver. Hein.
S'il y en avait, on ferait moins les malins. Hein.
Bon, essayons de redevenir légèrement sérieux quand même. Ceci est censé être une table ronde littéraire. Et j'ai la lourde responsabilité d'essayer d'avancer un petit peu. Autre chose qui m'a frappé dans tous ces romans d'aventure que vous écrivez, c'est que trois d'entre vous utilisent beaucoup la magie et la religion, alors parfois complètement détournée. Et vous, Jean-Luc Castel, par contre, dans vos romans, à moins que j'ai mal lu quelque part, il n'y a jamais d'utilisation véritablement de la magie, sauf peut-être dans Erebus.
Oui, parce que alors moi, justement, c'est marrant, hein, pour écrire des choses, les gens ils ont l'impression que je suis plutôt justement en fantasy, etc. Moi, je viens vraiment de la SF, je suis tombé dans la SF quand j'étais petit. Et même dans Francia, qui était quand même un livre qui se passe dans un univers, en fait, mais où il y a des elfes, des nains, des orques, de la magie, il a fallu que j'explique comment fonctionnait la magie. Pour moi, voilà, en fonction du principe de Planck, comment on modifie la réalité, voilà, la matière et l'énergie est une onde qu'on peut modifier. Moi, s'il y a de la magie, il faut qu'on m'explique comment elle fonctionne. J'ai un esprit, c'est bizarre, un esprit finalement assez cartésien. J'aime bien qu'on m'explique, voilà, ça fonctionne comment, qu'est-ce que c'est comme force, comment, voilà. Et autrement, souvent, ben, là, les enfants d'Erebus, ben, c'est dérivé, c'est en fait une sorte, entre guillemets, j'aime pas le mot, enfin l'anglicisme, mais c'est une sorte de spin-off des montagnes hallucinées de Lovecraft. Ça part après, donc voilà, il n'y a pas du tout de magie. De Lucidar non plus, dans le Simulacre non plus, et dans le Galou, ce qui pourrait être perçu comme des pouvoirs magiques pourrait être perçu par d'autres comme des mutations. Donc finalement, non.
En même temps, est-ce qu'on peut faire d'Artagnan dans l'espace et de la magie en même temps? Ça, c'est beaucoup quand
voilà,
même.
C'est ça. C'est-à-dire, il y a des univers qui ne s'y prêtent pas. Et moi, j'aime bien, voilà. Oui, je sais pas. Autant j'aime bien un film de fantasy, enfin, ou un livre de fantasy qui marche bien. Je me pose pas la question. Ça marche. Hein, c'est comme Howard. Moi, je me régale. Ou Tolkien. Je me pose pas la question si c'est bien bâti. Mais je dois avouer que moi, purement, voilà, d'écrire. Je pourrais pas écrire du Tolkien, par exemple.
Voilà. Mais c'est marrant parce que moi, la raison pour laquelle toi t'écris pas de magie, c'est la raison pour laquelle moi j'écris pas de space opéra. Parce que c'est vrai que quand t'écris du post-apo, trouver une raison pour laquelle l'humanité s'est foutue sur la gueule, c'est facile. C'est
naturel.
Trouver comment elle a réussi à survivre jusqu'à partir dans l'espace.
Tu sais, là, les choses.
Faut quand même.
Des fois, les choses arrivent plus vite qu'on ne le pense.
Ouais. On en reparlera quand on sera dans l'espace.
Ben regarde, voilà,
du coup, c'est marrant, on a la même démarche là-dessus.
Voilà. Parce qu'en fait, regarde, en moins de 200 ans, on se déplaçait quand même à la vitesse du cheval au plus rapide, c'était quoi, 40-30 km à l'heure. Et puis, moins de 2 siècles après, on a des avions, on peut faire le tour du monde, même pas 24 heures. Donc, si on prend l'accélération justement des progrès dans les transports et si on l'applique au futur, qu'est-ce qu'on va être capable de faire dans 200 ans?
La grève, en fait, la grève dans l'espace. Alors, je suis sûr que c'est ça.
Mais sauf que ça ne prend pas en compte la courbe de destruction de la société par elle-même qui va beaucoup plus vite que la courbe de. Bon, après, on va rentrer dans un truc complexe. Hein, mais la courbe de recherche de vitesse qui permet d'aller plus loin que.
Écoute, ils sont en train de dire qu'ils ont trouvé un moyen justement de dépasser la vitesse de la lumière. J'attends de voir. J'attends de voir dans les années qui viennent. Peut-être même la téléportation.
Mais donc, John Lang, si j'ai bien compris, alors la magie, c'est la solution de facilité.
Bon, la magie, souvent, on ne l'explique pas. Alors, on explique comment on s'en sert, hein, parce que d'ailleurs, c'est marrant, souvent. Et puis, après, les gens qui ont vraiment expliqué la magie, moi, je n'en ai pas lu. Hein. Enfin, bon,
si, c'est drôle. Ondes. Tu sais, le livre, là, le grand. Comment ça s'appelle? Les grands livres de magie. Là,
Tu veux dire dans la vraie vie? Parce dans que ceux-là, ils font vachement rire.
Où ils expliquent comment se transformer la truc pour transformer en loup-garou. Ouais. Tu sais, la recette. C'est le Grand Albert, je crois. Mais alors, mais franchement, t'es là, mais tu dis, mais c'est pas possible, quoi.
Les trucs genre, grâce à cette pierre de chakra,
et j'avais
cueilli des poils de loup sur le dos d'une loupe.
J'avais bûché ça, justement, à l'époque de Comtesse Bathory pour les rituels sataniques. Et je me suis vraiment documenté auprès d'une secte de, je crois que... Des Danois, me semble-t-il, une secte danoise.
C'est un groupe de black metal.
Totalement barré. Non, c'est pas les mêmes. Je vois à quoi tu penses, mais ceux-là, ils sont presque tous morts. Ils sont suicidés, tués, suicidés. Je crois qu'il n'y en a qu'un qui a survécu, quoi. Et c'était assez stupéfiant, quoi. Et le gars, au long d'un très très long processus, au terme d'un très très long processus, il expliquait comment, donc, de création, on devenait créateur, donc Dieu, et de l'univers A, on passait à l'univers B. Et d'après ce que j'ai cru, moi, comprendre, en tant que profane, le terme du processus aboutit à un suicide, quoi. Donc, ils sont bien barrés, les mecs. Pour passer dans l'univers B, ben, faut se mettre une balle dans le caisson, quoi. En gros, c'est beaucoup plus simple. Mais donc, pour dire qu'effectivement, il y a quand même des gars qui passent beaucoup, beaucoup de temps pour élaborer quelque chose qui, à leurs yeux, finalement, et aux yeux de ceux qui les écoutent, est complètement crédible.
Non, mais ça devient très drôle. Quand je te parlais de la recette pour devenir loup-garou, il fallait, par exemple, parmi les ingrédients, ce n'était pas le seul, hein, il fallait prendre des poils de loup sur le dos d'un loup qui avait mangé un mouton pendant qu'un type était en train de culbuter la bergère, mais il fallait qu'il y ait 77 moutons dans le troupeau, tu vois. Enfin, t'imagines,
ça, c'était 30 degrés à la
bergère. Alors déjà, le mec, il est en train de culbuter la bergère, tu le déranges, il n'est pas content, il te met une tête. Et le loup, il n'aime pas qu'on le tripote, donc il te bouffe. Voilà.
Non, mais ouais, enfin, voilà, ouais, la magie. Alors, comme t'expliques, hein, effectivement, le mec dont il parle, il a fait 20 ans d'études pour découvrir que pour mourir, il fallait se tuer. Donc, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal, mais ouais, bon, bah, moi, j'ai envie qu'il y ait des sorts qui partent dans tous les sens. Donc, voilà, la magie, on n'a pas besoin de l'expliquer à la base. En plus, bah, la plupart de mes lecteurs, ils ont l'habitude de l'utiliser dans les jeux vidéo, etc., donc, ou dans les jeux de rôle. Et puis, du coup, bon, ça fait un petit peu partie du truc.
Et l'informatique, c'est dangereux aussi, parce que dans le bouclier obscur, c'est comme ça qu'on ouvre les portes
démoniaques.
Voilà.
Et on explique plus de trucs dans le bouclier obscur, d'ailleurs.
Oui, c'est
des théories à la noix que j'aime bien.
C'est de la magie technologique, le bouclier.
Aussi, oui, un peu.
Mais cela dit, la magie, ça ne s'explique pas particulièrement, pas plus que les vampires ou les loups-garous. Le vampire, il est là, personne ne se demande ce qu'il fait là, le vampire. Bon, il est là, il est comme ça, il marche comme ça. C'est rarissime quand même. Donc en général, bon, la magie, c'est un outil de fiction. C'est parfois un outil facile ou pas, peu importe. Mais expliquer scientifiquement la magie, c'est un peu hors sujet, en fait.
Oui, d'où l'expression rôliste qui s'appelle « ta gueule, c'est magique ».
Exactement.
Quand tu es coincé dans un truc, là, tu dis « qu'est-ce que je vais faire ? Ta gueule, c'est magique. Ah bon ?»
Et c'est à nous en tant qu'auteur, justement, s'astreindre à ne pas utiliser des procédés, des facilités scénaristiques pour quand on écrit sur de la magie, quoi. Mais moi, je pense effectivement que ça, il n'y a pas besoin de l'expliquer. Au contraire, moi, je trouve que ça te donne une grande liberté. Puis j'aime à croire effectivement qu'il y a un monde invisible, des gens, peut-être des créatures qui nous observent, qui sont derrière nous, à côté de nous, qu'on n'entend pas mais qui nous parlent.
Ça s'appelle des hommes politiques.
Ceux-là, tu les entends quand ils te parlent, en général. Même que tu ne voudrais pas, souvent.
Gabriel Katz, des commentaires sur vos collègues. Parce que chez vous, finalement, c'est vrai que l'usage de la magie est quand même peu répandu.
Il est très accessoire, il est très annexe, en fait. Bon, disons qu'il est quand même au cœur de l'intrigue principale de ma première trilogie, depuis les mémoires. Puisque trois personnages se réveillent sans savoir d'où ils viennent, comment ils s'appellent, pourquoi ils n'ont plus de mémoire, c'est quand même un petit truc magique, ou alors vraiment c'est un hasard bizarre. Mais elle est très en fond, la magie, en fait, chez moi. J'aime pas beaucoup la magie spectaculaire, les boules de feu. J'essaie d'y aller très très doux sur la magie, de sorte à ce qu'elle soit un petit peu en toile de fond et qu'elle reste, si possible, fascinante. J'aime plutôt bien ça.
C'est pour ça que je disais qu'elle est moins prégnante chez vous. Elle est en toile de fond, mais la plupart de vos personnages ne sont jamais des magiciens proprement.
Non, très rarement. En fait, il y a un personnage du Puits des Mémoires qui l'est et qui en plus jongle avec sa perte de mémoire. Donc déjà qu'il n'était pas brillantissime à l'origine avec sa perte de mémoire, il commence à patauger sérieusement. Donc il est très 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 mauvais.
Et déjà il dans rame. La gérontologie là.
Hein. Un petit peu, hein. Un petit peu, c'est déjà Alzheimer. C'est-à-dire qu'il rame et tout ce qu'il essaye de faire est assez inefficient par rapport aux autres qui sont quand même beaucoup, beaucoup plus efficaces que lui.
Et dans Eternia, c'est plutôt, vous accentuez plutôt la place de la religion, et c'est la religion, plus il y a de croyants quelque part, plus ça renforce là les pouvoirs.
Tout à fait. En fait, la religion dans Eternia représente au moins 90% du véritable pouvoir. C'est un pouvoir politique, c'est un pouvoir séculier, c'est un pouvoir humain. Qui est exactement ce qu'on peut avoir aujourd'hui en termes de religion. Et en toile de fond, on a une sorte de magie nécromantique, finalement, qui est utilisée à des fins très, très, presque mercantiles, finalement, par les religieux. Mais le cœur du sujet, c'est réellement la religion, beaucoup plus que la magie.
Alors, il y a aussi une chose qui m'a frappé dans la plupart de vos romans, puis là, on a pu en juger en vous écoutant, c'est l'importance que vous attachez au côté humoristique.
Moi, je n'ai pas le choix. Hein. Je tire au dé. Donc, je sais qu'il existe des gens qui jouent au jeu de rôle sérieusement, mais moi, je n'en ai jamais vu. Bon. Donc, partant de là, quand j'écris du jeu de rôle, je sais pertinemment ce que vont faire mes joueurs dans la mesure où je raconte un peu des personnages gérés par des joueurs. Et je sais ce qu'ils vont faire. Je peux pas imaginer qu'ils vont faire un truc pas con. Donc, ou alors vraiment exceptionnellement, c'est pas possible. Donc, moi, effectivement, depuis que j'ai commencé le jeu de rôle en 83, je me suis marré à chaque fois, quoi. Donc, il n'y a pas. C'est naturel.
C'est effectivement tout à fait naturel. J'ai une anecdote terrible qui concerne mon thriller, là, n'oublie pas mon petit soulier. À l'origine, j'avais signé avec le masque un truc extrêmement classique, très sérieux, avec une histoire de complot politique, des gens qui se tiraient dessus partout, etc., etc. Le bouquin était écrit à moitié, ils avaient adoré ça. Et je vais déjeuner avec l'éditrice et je lui pitch complètement ce truc qui est totalement délirant, avec une histoire de type qui fait Père Noël aux Galeries Lafayette parce qu'il est comédien raté et qu'il n'arrive pas, à trouver drôle. Ça part dans tous les sens, c'est une histoire de mafia albanaise, c'est complètement délirant. Et l'éditrice me dit, bon, bah, laisse tomber l'autre, je veux ça. Donc, moralité, je me suis trouvé à faire un bouquin, je voulais un beau thriller noir, sombre, terrible. Il est totalement délirant, c'est totalement n'importe quoi, comme quoi on ne se refait pas.
Je ne dirais pas que c'est du n'importe quoi, mais c'est d'un cynisme un peu glaçant. Et en même temps, c'est vrai que quelque part, c'est excessivement drôle, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de rire à tout ce qui arrive à ce pauvre.
Bon, j'avoue que c'est un peu cynique, il ne faudra pas le dire.
Oui, c'est moi qui suis là pour vous ce soir.
Quelle voix quand même.
Quelle voix de velours.
Ah, attention, je la travaille. Hein. Je bois, j'avale du sable chaud tous les matins au petit-déj. Je me gargarise. Oui, oui. Ça ne vient pas tout seul, hein, faut pas croire.
Hein. Et l'humour dans tout ça?
Moi, j'en distille un petit peu au travers de mes romans, mais sans plus. Il y en a, les hauts conteurs, il y en avait de moins en moins. À chaque tome, finalement, c'est une série qui devient de plus en plus sombre. Mais ce qui n'empêche pas, effectivement, d'avoir tout de même soit des situations, soit des rapports entre personnages. J'ai fait pareil avec les héritiers de l'aube, principalement entre le geek du XXIe siècle et la bombasse, la brigande bombasse du XVIIIe siècle, l'un qui court après l'autre, et puis le geek qui court après la brigande, qui aura jamais, évidemment, parce qu'il prend que des râteaux. Mais voilà. Après, c'est pas non plus. Je m'efforce pas d'instiller de l'humour. Hein. S'il y en a un peu, il y en a, puis s'il y en a pas, il y en a pas.
Il y en a un petit peu aussi au niveau des situations, parce que par exemple, oui. Vous pouvez pas résister. Quand vous. La manière dont vous dépeignez Rasputin, par exemple.
Ah oui. Bon, oui, oui.
C'est pas le personnage,
oui, oui.
Dont on a l'habitude, celui qui est dans la Neva jeté par le poste du soupape.
Non, c'est vrai que là, je me le suis totalement approprié, je l'ai totalement transformé. Et il m'amusait, moi-même, quand j'écrivais sur lui, il m'amusait. Donc. Mais je sais que c'est un personnage qui a plu, effectivement.
Oui, oui. Vous voyez, tout de suite,
Oui, c'est vrai. C'est sûrement lui qui donne le plus de ressorts comiques dans Les Héritiers de l'Aube. Ouais. Le personnage secondaire qui est le plus marquant de ce point de vue-là.
Et vous, Jean-Luc Marquez ? Alors, dans Les Enfants d'Erebus, non, c'est pas très drôle, mais par contre, dans le simulacre, je me suis vraiment amusé, voilà, puisque j'ai pris quand même un petit peu l'optique de D'Artagnan. Dès qu'il avait été fait dans les films de KPDP à un moment donné, avec le plancher qui était interprété par Bourville, et qui m'a beaucoup fait rire. Donc je pensais à ce plancher-là, mais plus vieillissant. Alors j'avais avec des dialogues qui fusent tout le temps entre les personnages. Et ça m'a beaucoup amusé. Et alors là, y a le dernier qui n'est pas apparu, puisque je suis en train de finir de décrire. Là, je vais en écrire un, donc un polar ésotérique que je viens de terminer. Où là, on a un personnage de gars de ma région particulièrement effroyable. Enfin, puisque le héros, c'est un jeune enquêteur de la crime en fait, de Paris qu'on a puni en le mettant au vert chez moi, quelque sorte, dans ma ville dans ma ville à Aurillac, et en fait il tombe sur un représentant, mais alors pur jus de chez moi, une espèce de géant de 2 mètres de haut, tiré de sa campagne, qui est né pour jouer au rugby, et ça tombe bien parce qu'il y joue effectivement, qui a des réparties effroyables, des dictons de sa grand-mère monstrueux, qui bouffe comme 10, enfin tout ce que lui il déteste, quoi. Donc au début ça va être vraiment... les rapports entre les deux sont assez drôles, et les répliques fusent pas mal aussi.
Et puis dans Télucidar, là vous avez créé un personnage complètement hors du commun.
Oui, alors j'ai le personnage de Kshan qui est une sorte de... Alors, je devrais pas dire ça parce qu'il va se vexer.
Pas de spoiler.
Mais voilà, je vous laisse le découvrir. Voilà. Mais un personnage assez étonnant.
Qui vaut son pesant de cacahuètes.
Un petit mot sur l'humour. Alors parfois, c'est à double tranchant. C'est-à-dire que j'ai fait, par exemple, dans Eternia, quelque chose d'extrêmement sombre. C'est très sombre, c'est très dur, c'est atroce, etc. Et il y a quand même des gens qui viennent me voir et qui me disent « Moi, ce que j'ai préféré, c'est quand il prend le petit chien. C'est trop marrant, le mec avec le petit chien. » Je me dis, merde, c'est quand même bizarre. Le petit chien, c'est un petit truc anecdotique. Ok, c'est un guerrier, un combattant d'arène, un gladiateur qui se trimballe, un petit chien qui n'a pas de forme. C'est vrai. Et il y a des gens qui retiennent ça plus qu'autre chose, comme quoi.
Voilà, mais c'est vrai que ça introduisait la petite note d'humour, quelque part, parce que c'est vrai que ce petit chien qui n'offre strictement aucun intérêt en tant que chien.
En tant que chien.
Mais c'est vrai que quelque part, il humanise un peu le
personnage. Ouais, je trouve que dans les trucs très noirs, l'humour, il ne faut pas hésiter à en mettre. Hein. Ce que Graham Masterton arrive très bien à faire, d'ailleurs, dans des trucs totalement où tout le monde est en train de crever et tout, il arrive toujours à foutre une petite comparaison marrante, etc. Et en fait, ça humanise un petit peu le récit, je trouve. ce qui n'empêche pas, d'ailleurs, d'être absolument sordide. Hein, mais...
Oui, généralement, il ne lésine pas sur les effets gore et tout.
Ouais. Mais tu as toujours un petit pic, un petit truc sur la société. Ça n'a pas besoin d'être potache ni rien. Hein. En arrière-plan, tu le retrouves. Je pense que c'est très sympa d'utiliser ce petit ressort, même vraiment dans les trucs très glauques. Quoi.
Le bouclier obscur, c'est quand même assez hard, hein, quelque part.
Mais il y a des gens qui ont trouvé plein d'humour, parce que j'en avais mis. Hein. Bon, tu l'as peut-être pas vu, toi, mais. non, moi j'en ai mis. C'est naturel aussi, de toute façon, mais c'est vrai que c'était quand même pas du tout pour rire. Mais je trouve que ça rehausse un petit peu ce qu'il peut avoir comme détresse ou misère ou peur, etc. De mettre un petit truc comique, même en arrière-plan, même au troisième degré, des fois.
Gabriel Katz, vous vouliez intervenir, je crois.
Non, c'était juste pour dire une ânerie, mais forcément, on parlait d'humour. Je disais que c'était quand même un terrible paradoxe que la seule note d'humanité dans mon diptyque soit un chien. Pardon, c'est juste pour dire ça.
Bah, écoutez, je vois que l'heure a tourné très vite. Ça va être le mot de la fin. J'ajouterai quand même que, pour reprendre le titre de cette table ronde, c'est vraiment un grand plaisir que de lire vos romans d'aventure. Je fais partie des privilégiés qui ont eu la chance de tous les lire.
Oui.
Et c'est vrai que d'une part, je me suis bien amusé, et en même temps, j'ai lu beaucoup de très belles histoires, j'ai vécu de grandes aventures. Donc, merci à vous quatre.
Merci à toi.
Merci à nos lecteurs aussi, parce que
et c'était vraiment de l'aventure. On a commencé à parler.
Merci à vous aussi.
On a parlé par des maisons de retraite pour les vieux geeks. Comme quoi.
Ouais.
Ça, c'est un sujet qu'on va proposer aux Imaginales l'année prochaine.
le nouveau courant littéraire qu'on va monter cette année dans notre nouvelle maison des
Girons Geek, on va l'appeler comme ça, Girons Geek.
Girons Geek, ouais.
Girons Geek.
Girons Geek, c'est-à-dire c'est nous dans 20 ans en fait.
C'est ça. Ah, c'est, voilà, c'est bien, c'est bien. C'est mieux que Girontophilis.
Ouais, ouais, Girontophilis, c'est un peu limite.
Bah, bah ouais, t'as l'impression que c'est un vieux qui a chopé la syphilis, c'est moyen.
Et vous pouvez nous retrouver sur vieux.com.
Merci à tous.
Merci à toutes et à tous.